103.5 Radio Circa. Dans quelques petits instants vont démarrer les rencontres artistiques avec Christian Lucas qui ce soir reçoit Joanne Le Guilherme.
Aujourd'hui, on a donc Joanne Le Guilherme pour le spectacle Secret qui est avec nous. J'ai un peu l'habitude de demander qui c'est qui a vu le spectacle, parce que c'est une rencontre. Donc, c'est bien de lever la main, qu'on sache un peu. Il y en a qui n'ont pas vu le spectacle encore. D'accord. C'est à vous. Moi, je ne suis pas animateur, ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas mon boulot, je ne sais pas le faire. Donc, c'est un petit peu... à vous de voir si on a la chance que Joanne soit là, c'est pas souvent. Donc si vous avez des choses à lui demander, des choses, des questions à lui poser. Non ? Bon ben voilà, merci. Alors, Secret. Secret. Je vais poser une question, alors je vais commencer. Hein. Secret, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la première fois que je le vois, j'ai vu, sauf Cirque Haut, parce que c'est toute une histoire qu'il pourrait peut-être nous raconter, et je connais pas tout. J'ai pas vu Cirque Haut, c'est déjà très vieux Cirque Haut. Hein. Mais j'ai vu ce premier spectacle où il était tout seul avec un groupe de musique, enfin avec des musiciens en tout cas, sous chapiteau, et puis Secret, et puis le travail sur Secret. Et donc moi ce qui m'intéresse aussi, c'est les secrets de fabrication. Quoi. Donc ce que j'aimerais savoir, Joanne, c'est quand tu construis, quand tu travailles avec des structures, comment ça se passe ? Il y a plein de possibilités. Soit tu prends des bouts de bois et tu t'y accroches, mais est-ce que tu as des références ? Par exemple, est-ce que tu travailles, je sais pas, je dis n'importe quoi, est-ce que tu travailles avec des compagnons charpentiers, avec des architectes, avec des choses comme ça ?
Non. Non, à un moment, je travaillais avec des constructeurs, mais avant de travailler avec des constructeurs, je travaille avec des bouts de bois qui traînent à droite à gauche. Et puis après, je vais chercher les bouts de bois qui vraiment me conviennent. Et puis à un moment, je travaille avec des constructeurs qui formatent des bouts de bois exactement comme ceux que j'ai besoin.
D'accord, parce que c'est quasi de l'architecture. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec des dômes qui travaillent sur des tensions et des pressions comme ça, c'est quasi des principes architecturaux. Quoi.
Oui. Oui, alors toute l'histoire des architectures, c'est tout un travail de recherche sur des clés mécaniques, des bases de tenue de bouts de bois qui vont s'entrelacer avec des clés mécaniques et qui tiennent essentiellement par le frottement et donc liées à la gravité. Et toutes les structures que je monte dans les architectures sont des structures qui pourraient tenir sans clous, ni colle, ni vis, ni ficelle, ni lien. C'est uniquement leur forme et la gravité qui appuie sur ces bois, qui créent du frottement et qui les tiennent parce qu'elles sont agencées de manière à s'entrelacer et à tenir. Et donc j'ai développé beaucoup de différentes manières de lier ces structures et aujourd'hui j'ai suffisamment de matière de base pour pouvoir faire varier leur forme et construire à partir de ces différentes clés mécaniques.
Oui.
Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour le spectacle que vous nous avez offert hier. J'avais vu aussi le premier secret et le laboratoire et la motte que vous aviez exposée à Avignon. Et je trouve, moi, ce qui me touche, c'est comment vous arrivez à donner une poésie à la matière, à la rencontre. Donc, c'est vraiment cet aspect-là sur lequel vous nous entraînez. Et je voulais savoir un petit peu si vous avez, moi ça m'évoque un peu tout ce qui a été fait au niveau du Bauhaus avec la rencontre entre les artistes et les artisans, avec l'idée que l'art c'est la racine commune entre artistes et artisans, et que c'est un petit peu ce travail-là qui vient donner la poésie. Alors, je voulais savoir comment vous développez vos idées et est-ce que vous êtes allé chercher dans l'histoire aussi ce travail sur la matière.
Oui, alors non, pas du tout. En fait, donc en fait, tout mon travail découle d'un observatoire autour du point. Donc il y a un moment, je me suis posé la question de, enfin, je voulais faire le point sur mes croyances et connaissances. Et je voulais mettre du lien dans les choses qui m'entourent, qui me paraissaient avoir des du lien, quoi, et chercher à organiser d'organiser le monde pour y voir un peu plus clair, donc faire le point. Donc à un moment je me suis posé les questions, je me suis dit que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait pas grand chose, j'arriverais à retrouver ce pas grand chose dans n'importe quelle chose plus complexe, et que c'était un bon point de départ pour observer le monde. Donc je me suis attardé au pas grand chose, donc à quelque chose. J'ai donc choisi le point comme sujet d'observation, le point le plus basique, quoi. Et puis j'ai observé ce point, et très vite ce point m'a montré que quand on regarde quelque chose, il nous cache toujours quelque chose qui est caché derrière ce que l'on regarde. Donc c'est lié à notre nature physique qui fait qu'on a un regard frontal et qu'on ne perçoit que la face visible, enfin c'est ce qui est en face de nous, mais pas ce qui est derrière, alors que la réalité est une chose entière qui est faite de ce que l'on voit mais aussi de ce que l'on ne voit pas. Donc à partir de là, j'ai changé mes modes de perception. Enfin, j'ai tenté de les changer en tournant autour des choses, en tournant les choses, en partageant un point de vue inverse au mien, qui pouvait compléter le mien et avoir une vision plus entière de la réalité de ce que j'observais. Je tentais d'entrer dans les objets que j'observais pour en avoir une vision explosive, donc quelque chose de plus imaginaire. Et toutes ces observations, en fait, m'ont amené à rencontrer la mathématique, la géographie, le calcul, la topographie, la philosophie, etc. Et finalement tout, puisque c'était aussi ma... comme je disais tout à l'heure, si j'arrive à comprendre de quoi est fait pas grand-chose, ce pas grand-chose existe forcément dans quelque chose de plus complexe que pas grand-chose. Et donc voilà, la base de mes recherches, c'est pas d'aller chercher dans des écrits, dans des choses, et même peut-être surtout pas, mais plutôt d'avoir mon propre regard sur le monde, plutôt que de chercher à prendre un chemin déjà utilisé. Donc je suis parti du point, et ce point m'a amené, comme je vous disais, à rencontrer des tas de domaines qui ouvraient toujours des chantiers, qui en ouvrent d'autres, et puis après, toutes ces différentes observations en fait se recoupent. Et toutes ces observations amènent à une forme de connaissance. Cette connaissance devient une culture, et cette culture habite tous les projets que j'entreprends.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, j'étais en Avignon en 2008 et j'étais vraiment super étonnée de ce que tu avais fait, enfin, de tout ce qui était développé à partir de ces mikados géants. Et je trouve qu'en Avignon, tu étais plus dans quelque chose de... un peu le magicien qui dirigeait, tu vois, avec ta cape rouge, tout ça. Et là, j'ai trouvé que tu rentrais dans la... Enfin, est-ce que c'est juste ou pas? Comme si tu rentrais, tu as changé de costume, tu as pris un costume qui avait la couleur du bastard. Quelque part, c'était comme si tu nous montrais une animation... Enfin, je n'oserais pas dire animal, mais en fait que la matière devenait beaucoup plus animée. Tu étais moins par-dessus, mais tu étais dedans. Est-ce que c'est un chemin, un phénomène que tu cherches ou pas?
Oui, quelque part, je m'efface un peu, peut-être, dans cette nouvelle formule. Oui. Enfin, de toute façon, votre vision est la bonne. Oui, absolument. Oui, oui, bah, j'ai changé un peu de direction. Enfin, dans l'ensemble, oui, je m'efface un peu dans tout ça, où je me fonds aux objets, plus que je suis moins en domination des objets. Je suis plus fondu aux objets, peut-être.
C'est pas vraiment une sensation que j'ai personnellement. Oui. Non, je trouve que même c'est même ça qui est intéressant, parce que c'est, on n'est pas du tout sur un musée de on est loin de ça, même un musée d'architecture, de choses construites. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la construction et la place que tu prends à l'intérieur de ça. Il me semble que c'est même ça l'enjeu de tout ce qui se passe. Quoi. Donc je trouve moi assez présent. Je n'ai pas trop la sensation d'effacement. Ah oui, tu veux dire que les objets restent, l'animation des objets.
J'ai jamais vu, moi.
Non, mais c'est quand même un choix très, c'est quand même un choix de ta part de dire je vous présente la chose en construction et je m'y investis, quoi. C'est quand même un choix de dire on sent même qu'il y a une sorte presque de par moment de, c'est ce qui est présenté de rage, quoi. C'est-à-dire de dire je m'affronte aux objets et j'en fais quelque chose jusqu'au moment où d'ailleurs où les objets où les constructions se démontrent tournent un peu au chaos, quoi. C'est un peu, il y a une volonté quand même de ça.
Voilà, c'est vrai que dans ce spectacle je montre, j'ai réuni beaucoup de choses du domaine du savoir-faire de la construction. Je construis beaucoup de choses en direct, et, enfin presque tout, oui. Voilà. Donc je montre un savoir-faire comme le cirque a toujours montré des savoir-faire. Le savoir-faire 5 balles en l'air, savoir monter sur ses mains, savoir se balader sur un trapèze. Et moi je vous montre le savoir-faire un avion en papier, le savoir-faire une structure avec des bouts de bois. Enfin, je reste dans le savoir-faire des pratiques minoritaires. Voilà.
Moi, j'avais une petite question parce que, pareillement, j'ai vu l'autre version de Secret et la Motte qui sont. Et puis, j'ai vu Secret, ce secret-là, ces secrets-là, il y a 2 jours. Et je suis toujours autant, mais totalement fasciné. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension, enfin, je ne sais pas si ça rejoint ce que vous dites ou pas. Mais il y a une certaine dimension propre au spectacle ou à une perception que je peux avoir du spectacle qui est atténuée dans cette version-ci pour moi. Parce que plus, oui, beaucoup des constructions plus peut-être plus longues et nécessitant plus d'assistance aussi. Il y a aussi la présence des assistants qui sont beaucoup là finalement. Sur le plateau et qui amène une, voilà, un côté un petit peu plus installation et qui pour moi n'est pas dérangeant du tout, mais il y a une dimension spectacle que je me demande comment elle évolue et est-ce que dans ta tête il y a une suite encore à se créer sous ce chapiteau ou est-ce que ça se dirige vers d'autres choses ou, enfin, voilà, est-ce qu'il y a encore un secret qui vient après celui-ci, encore des évolutions.
Oui, 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 bien sûr. Enfin, c'est d'ailleurs ce que je veux affirmer aujourd'hui, c'est que je dis que je ne ferai plus de nouveaux spectacles, je fais une continuité, je continue, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé déjà sur ce qu'on appelle le secret d'avant. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui a tourné 7 ans. Et en 7 ans, il n'a pas arrêté de bouger de sa création jusqu'à la dernière. Il y a des numéros qui ont disparu, d'autres qui sont arrivés. Et les gens qui l'ont vu au début et 5-6 ans après, c'est un spectacle qui avait, qui avait énormément bougé. Là, à Calais, en décembre, on a fait une grosse mutation. Donc on a l'impression que le spectacle a changé beaucoup, mais j'aurais pu aussi le faire glisser beaucoup plus doucement. Et peut-être que personne ne serait aperçu de rien dans son changement, parce qu'il aurait muté tout doucement. Et puis là, bon, aujourd'hui, il est comme ça. Et puis, il va continuer dans les prochaines années de muter à un rythme plus lent. Mais les choses vont continuer à avancer. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont revenir de bien plus loin. Des choses que j'avais dans des spectacles bien avant. En fait, je constitue une matière avec laquelle je vais pouvoir composer. Et voilà.
Oui, moi, je voulais prolonger la question au sujet des personnes qui sont avec vous sur le spectacle. Savoir quelle est leur formation. Est-ce qu'ils viennent plutôt... de l'architecture, est-ce qu'ils viennent plutôt du monde du cirque, est-ce qu'ils viennent plutôt d'un autre champ artistique ou pas, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient une très belle présence justement sur scène à vos côtés, et ça je trouve que c'était quelque chose qui faisait partie des changements que moi j'ai perçu entre la fois où j'avais vu avant et cette fois-ci, et voilà, qui m'interrogeait aussi là-dessus.
Les gens qui travaillent sur la piste avec moi? Oui, parce que des gens du milieu qui travaillaient pour d'autres compagnies avant. Les deux filles sont constructrices, on va dire, entre autres. Elles travaillaient dans d'autres compagnies. Franck, le garçon, est là depuis 6 ans, on me dit. Il vient aussi du milieu, de notre milieu, quoi. Il était à Zingaro avant, en technique, avant ça, je ne sais quoi. Du côté de la lumière, on a un changement. C'est quelqu'un qui vient de notre milieu aussi, du spectacle vivant, quoi. C'est... Enfin, oui. Oui, ils sont toujours derrière et un peu devant. Et pas tant devant, mais c'est assez fréquent quand même que la technique soit un peu à vue aussi.
Ça ne va pas forcément être sur la forme spectaculaire, ça va être sur la forme des abécédaires. Je voudrais savoir en quoi ils découlent ou si c'est eux qui sont en amont de tout ce qui est contamination du point par la courbe, et le fait de l'avoir utilisé cette fois-ci plus spécifiquement, donc l'abécédaire en rond comme ça qui devient chiffre, voilà, pourquoi l'avoir inséré là alors qu'il me semblait à la base que dans la démonstration c'est comme si effectivement c'est eux qui étaient à la naissance de on va dire des installations vraiment plus grosses. Vraiment comme des abécédaires. Donc je voudrais savoir pourquoi cette fois-ci ils ont été inclus dedans.
Là, vous parlez de l'écriture que je fais au sol, Tata ?
Oui, voilà.
Oui, pourquoi elle a été inclue dedans ? Parce qu'elle me paraissait avoir sa place dedans. Et qu'aujourd'hui, je veux aussi faire un lien plus fort entre monstration, la matière de monstration et la matière du spectacle. Donc à mon avis, aujourd'hui, ça a beaucoup plus c'est beaucoup plus lisible le lien qu'il y a entre les deux. Et ensuite, j'utilise la culture de monstration pour créer ce numéro avec l'écriture, mais on ne retrouve pas non plus cette écriture dans monstration. Il n'y a pas une redite, c'est une utilisation de quelque chose que j'ai pu attraper dans monstration, que je traduis là. Et ça m'intéressait de montrer ce numéro qui est absolument pas. Qui peut être très très loin du cirque. Mais c'est plutôt une sorte de tour de magie ou un petit tour d'embrouille.
Ça ne sert pas de linguistique à toute la recherche avant, parce qu'on voit aussi ces signes cabalistique sur les bois de, du dernier numéro.
On va dire. Oui, ces signes sont d'autres signes. C'est un autre.
Et vous les utilisez comme langage d'écriture?
Lesquels? Les derniers sur les bastins?
Oui.
Donc chaque signe est le nom du bastin, parce que ça nous permet de les repérer quand il y en a un qui a un problème. Comme il a un nom spécifique, on sait où il est, dans le tas de bastins, par exemple. S'il est cassé, s'il a un problème, on peut le retirer, on l'identifie.
Et ils ont été créés comment, ces signes?
Ça, c'est issu d'un chantier qui s'appelle la numérotation pas si cachée. Voilà.
Et c'est tout.
Ben, elle est pas si cachée.
Oui, mais... ouais.
Et des nouvelles de la motte, c'est possible? Des nouvelles de la motte.
La motte va très bien.
Elle
est à 2,50 m. Elle se porte très bien. De mieux en mieux. Mais...
elle est où?
En ce moment, elle est dans son conteneur, bien au chaud. On ne sait pas.
Juste une petite question par rapport... Donc j'ai remarqué que cette fois-ci, secret se fait sous un chapiteau vert. Donc est-ce qu'il y a une raison spécifique ou c'est peut-être provocatoire?
Alors tu dis cette fois-ci, le cirque ici se fait sous un chapiteau vert, mais le cirque ici a toujours été sous un chapiteau vert. Oui, oui. Oui, alors le vert, il y a plusieurs choses. À une époque, avant d'acheter chapiteau, je voulais en faire construire un vert au Chili, et puis c'était un peu compliqué. Je suis revenu vers chez moi, et puis en fait, il y en avait une cinquantaine de kilomètres de chez moi qui se vendait, qui était vert, tout ça. Bon. Donc, c'était parfait. Ensuite, une provocation par rapport au vert et aux superstitions du théâtre. Mais justement, n'étant pas un théâtre, je n'ai pas craint la superstition. J'ai d'ailleurs racheté chapiteau à une troupe de théâtre qui a fait faillite à Avignon sur une première création. Moi, après, ça a été plutôt pas mal. Juste pour dire que le cirque n'a pas du tout ces superstitions du vert, et d'ailleurs bien au contraire, puisque à une époque tous les chapiteaux étaient verts parce qu'ils étaient en toile et qu'ils étaient enduits d'un produit à base de cuivre qui les rendait verts de gris, et puis finalement tous les chapiteaux finissaient verts de gris. Donc voilà pourquoi vert, c'est une bonne idée.
En tout cas, il est très beau.
Et puis, je ne crains pas la superstition du théâtre. Voilà.
Il y a un petit vide, mais je vais en profiter pour poser aussi une petite question. C'est la question de l'aléatoire, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu là avant-hier, à un moment donné, il y a des structures qui se mettent en place. Et par exemple, prenons le dôme, tu montes dessus, ça bouge, ça part... alors, est-ce que jusqu'à quel point c'est géré tout ça, ou bien est-ce que tu as, selon chaque spectacle, des surprises?
Oui, il y a toujours des surprises. Ça reste quand même un peu aléatoire, ces histoires de bout de bois, parce que chaque jour, ils ne sont pas montés exactement pareil, parce que la température n'est pas la même, que les glissements, le frottement, tout ça, ça ne marche pas toujours de la même manière quand il pleut très fort dehors et qu'il y a beaucoup d'eau sous le chapiteau. La première, c'était très très humide. Quand il y a du soleil, les bois sont très secs, beaucoup plus glissants. Enfin, chaque jour, la température joue énormément sur la tenue de l'objet et puis sa construction directe, en allant au plus vite possible pour pas trop ennuyer les spectateurs, fait que on peut passer à côté de baguettes mal placées. et qu'il y a un moment je monte dessus puis je vois si ça tient ou si ça tient pas, et des fois ça tient un peu, des fois un peu plus, des fois ça tombe, des fois ça veut pas tomber aussi.
Et ça me pose même du coup, mais tu as presque répondu là, mais la question de ton travail, à partir de quel moment tu décides, parce qu'il y a un temps, tu viens de dire qu'il ne faut pas ennuyer le spectateur, donc il y a un temps où tu nous fais participer aux constructions, c'est même ce temps est même essentiel, et à partir du moment où tu te dis ça je peux prendre le risque, ça je ne peux pas. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a de la matière, qu'il y a des choses essayées, qu'on va revoir peut-être plus tard, qui ne sont pas là, qui auraient pu y être, mais c'est moi je suppose, mais peut-être pas. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu te dis... Est-ce que c'est un moteur, c'est-à-dire que ça reste quand même du spectacle, est-ce que c'est un moteur pour toi de te dire, eh bien là, ça va ennuyer, mais je prends ce risque, ou je ne sais pas.
Oui, alors... bon, quand je suis sûr que ça va ennuyer, je le mets de côté. Après, si ça m'intéresse un peu, je me dis que ça peut intéresser l'autre un peu. Voilà, après, il y a plein de choses en devenir qu'on a laissé tomber parce que ça nous mangeait trop de temps, quoi. Et qu'il y avait d'autres choses à s'occuper. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un peu de côté pour l'instant, qu'on reprendra en main dès qu'on aura un peu de temps.
Moi, j'ai une question sur le processus au départ de chaque recherche. Est-ce que vous partez plutôt, de façon générale, je suppose que ça dépend des fois, mais est-ce que vous partez plutôt grandeur nature, c'est-à-dire en prenant directement la matière à l'échelle 1, ou est-ce que vous partez sur des maquettes, comme on a pu voir dans les laboratoires qu'on a vus, et que c'est ensuite que vous les développez ? Et que vous travaillez sur le corps après ?
Je travaille à différentes échelles. Disons qu'il y a un moment, il faut les travailler en grandeur nature, parce que le grandeur nature, il apporte des contraintes qui n'existent pas en plus petit. Ne serait-ce que le choix des matériaux, le poids des matériaux, les poids des matériaux plus l'humain dessus... le coût des matériaux aussi, à grande échelle, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et puis aussi, dans mes recherches, je travaille beaucoup en petit, parce que c'est beaucoup plus simple de bouger des bouts de bois grands comme ça que des poutres. Ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'espace. On peut en faire plein, les mettre les unes à côté des autres, les comparer. Donc je travaille beaucoup en maquette aussi. Mais à un moment, il faut passer à la taille réelle, parce qu'il y a... Il y a plein de choses qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas en petit. Quoi.
Oui. Comment se construit le numéro avec l'avion en papier ?
Avec une feuille à trois. Tenter de comprendre si je peux voir, si je peux comprendre comment le faire voler, comment prédire sa construction, quoi. Enfin, ce qu'il va faire, son vol, quoi. Non, je réponds pas à la question. C'était quoi la question ? Alors ça, je sais, c'est un vieux numéro, c'est un de mes premiers numéros, celui-là. Alors, je sais plus. Mais bon, c'est encore une fois du savoir-faire, un savoir-faire que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne maîtrise pas.
Alors, mais justement, c'est bien parce que ça me permet juste de rebondir sur une chose. Il y a des choses qui ont disparu là dans la dernière version de Secret, qui étaient des choses plus anciennes chez toi, qui étaient plus proches d'un cirque, on va dire, de ce qu'on appelle le cirque, que tu exploites, c'est-à-dire marcher sur les bouteilles, le travail avec le sabre. Et là, on n'a plus ça du tout. On n'est plus que sur des constructions, des architectures. Alors, est-ce que ça a été aussi un choix, c'est chez toi, de dire ben, j'abandonne ça, maintenant je suis vraiment que sur ce qu'on pourrait appeler le plastique?
Oui, alors oui, c'est vrai que ça a été une volonté d'abandonner tout ce qui pouvait créer du lien sur l'imagerie collective qu'on a du cirque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jonglage, enfin, toutes les pratiques dites traditionnelles de cirque n'existent plus au cirque ici. Et que je ne montre plus que des pratiques non traditionnelles, mais pratiques minoritaires. Et c'était un choix, oui, pour voir si ça pouvait encore intéresser, et si ça, par hasard, ça pouvait toujours entrer dans le cadre du cirque. Ça m'intéresse. Savoir aujourd'hui, bon, avec toutes les polémiques qu'il y a de la définition du cirque, est-ce que ce que je fais est du cirque ?
Bon, on va poser la question.
Moi, j'ai remarqué, j'ai vu quelques spectacles, c'était le seul spectacle qui était en cercle. Il y en a beaucoup qui sont en cirque, mais frontal.
Bon, on a déjà une réponse, le cercle. C'est une définition du cirque, oui.
J'ai l'impression, en voyant ton travail depuis à peu près, je sais pas, 27 ans, à peu près, en voyant cette évolution, je pense au travail de Gaudí, qui a construit la cathédrale, une des plus belles cathédrales à Barcelone. Et du coup, j'ai l'impression que, autant quand il a construit cette cathédrale, il a commencé, puis maintenant elle continue à se construire par d'autres apports. J'ai l'impression que ton travail est comparable à ça aussi, c'est-à-dire que tu poses un travail qui a son temps avec toi. Est-ce que ça va continuer quand tu seras plus là ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas ? Ça me fait rappeler, enfin, en voyant ce spectacle-là, et en voyant aussi toute la démarche de tous les autres spectacles d'avant, et puis avant que Cirqueux, tout ce que tu as pu présenter à l'école de Chalon quand tu es sorti, quand tu étais à l'école, j'ai l'impression que c'est une construction d'une cathédrale. Quoi. Voilà, je ne sais pas où ça va aller, mais ça me fait rappeler à Gaudí. C'est tout.
Merci.
Moi, c'est plus par rapport à... Parce que je ne sais plus à quelle question c'était que tu répondais tout à l'heure, en disant que tu essayes, entre guillemets, d'éviter les influences ou les références. Et donc, tu parlais de ce point de départ qui est le plus basique possible du point et de tout ce qui s'est construit autour. Et je ne sais plus quand j'ai entendu... Et c'est peut-être des conneries, donc tu pourras m'éclairer, que tu avais pris du temps pour voyager vraiment loin et longtemps, je ne sais pas pourquoi. Et par rapport à ça, je suis curieux de savoir quelle est, si au niveau d'une matière art, enfin d'une nourriture artistique, tu veux essayer de trouver ta propre chose, quelle est la place de ce que tu vois, de ce que tu vas voir si tu voyages, par exemple, j'en sais rien, dans ce que tu construis par la suite, humainement peut-être ou autrement.
Oui, alors cette histoire de voyage, c'était en 2000, quoi. Je suis parti faire un tour du monde après la fin de... On venait de finir Oussa, donc le spectacle avant secret. Et j'ai décidé de prendre une année... de faire un voyage, de faire le tour de la planète. En fait, je cherchais de la déstabilisation physique, mentale, enfin générale. Je voulais faire un tour de la planète pour me donner une idée de l'atmosphère terrestre sur un temps court, sur à peu près un peu plus d'une année, quoi. Et puis de voir un peu comme les différents possibles. Donc j'avais deux prétextes. De goûter l'atmosphère terrestre et puis parallèlement j'avais un autre projet qui était de rencontrer des populations dites inadaptées qui étaient que je considérais comme populations traumatisées, tribales et handicapées. Où là je proposais des pratiques communes des hommes, c'est-à-dire le fait de marcher sur ses pieds et de manipuler des objets. Donc le travail de la verticalité qui est commun aux hommes, mais que je faisais sur un petit fil qui était à 20 cm et je proposais à ces différentes communautés de travailler sur le fil, donc sur cette pratique qui est commune aux hommes, le fait de se dresser sur ses pieds et de manipuler les objets du quotidien qu'on peut retrouver dans les formes de jonglage, quoi. Et ça m'intéressait de confronter donc ces pratiques majoritaires de l'homme à ces populations dites inadaptées. Et ce que j'ai pu constater, par exemple, en travaillant avec des personnes handicapées moteurs inférieurs, sur la corde, par exemple, donc il y en avait qui boitaient très fortement, qui avaient une forte, un fort handicap sur les jambes ou qui n'avaient pas de jambes, une fois qu'ils étaient sur le fil, ils avaient un équilibre quasiment instantané, parce que ce sont des gens qui se battent, vu qu'ils ont peu de mobilité, ils développent énormément de connaissances de l'équilibre. Donc quelqu'un qui boite toute la journée, tu le mets sur un fil, il tient tout de suite parce qu'il connaît très bien la situation de déséquilibre. Que les personnes malentendantes ont un autre type d'approche de l'équilibre, c'est-à-dire qu'une personne entendante va avoir un déséquilibre, puis elle va rattraper ce déséquilibre, et c'est toujours comme ça. Qui était en équilibre en attendant un déséquilibre puis en le rattrapant, alors que je me suis aperçu que les personnes qui avaient des malentendants avaient une autre approche de l'équilibre qui était un ajustement permanent du rééquilibre, c'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas le déséquilibre, ils étaient toujours en compensation au lieu d'être en rattrape comme ça, ils étaient quelque chose de beaucoup plus doux qui n'était pas en rattrape. Enfin bref, suivant les différentes populations que j'ai rencontrées, j'ai observé des choses à partir donc de ces pratiques majoritaires chez l'homme. Et en revenant de ce tour du monde, j'ai commencé à travailler sur le point. Et inconsciemment, je venais de faire le tour de la planète, et en revenant, je me suis enfermé, j'ai commencé à faire le tour du point, les différentes manières de faire le tour d'un ensemble qui m'ont amené à la motte, à l'observation du point et de toutes ces... de tous les chantiers que j'ai pu développer autour de ces observations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai...
moi, il y a un petit passage que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qui t'amène, après avoir fait un tour du monde, tu reviens à un point, je ne vois pas le passage, quoi, au moment où tu retournes...
Où je reviens et j'observe...
Oui, le point. Pour moi, c'est trop abstrait.
Est-ce
que c'est lié au cirque ? Est-ce que c'est lié à la piste déjà ? Est-ce qu'il y a un point plus fort que les autres ? Est-ce que...
À la fin, tout est lié. C'était pas forcément conscient quand je l'ai fait, mais je reviens d'un tour du monde et je me mets à travailler sur le point et je fais le tour du point en le tournant, en tournant autour. En
et le point, ça veut dire, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a tellement de points selon que j'en ai graphiste.
Un point.
Qu'est-ce que c'est qu'un point ?
Un point, c'est quelque chose que tu peux définir au milieu de rien. C'est quelque chose que tu peux définir. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. D'accord. Et à partir de quel moment, rien devient quelque chose.
C'est le début de quelque chose. Quoi. Voilà. C'est le minimum.
Que tu peux identifier comme quelque chose.
D'accord. C'est le minimum. Donc,
voilà. Et le minimum, apparemment, ce n'est pas un, puisque un ne peut pas, n'est pas sûr d'exister lui-même. Deux, ce n'est pas encore ça, parce que à partir du moment où on met deux points, une troisième chose commence à exister, qui est le rapport entre ces deux points. Donc on est la ligne, mais je ne considère pas la ligne encore comme le point. Donc on peut rajouter un point, ce qui nous donne, si ce troisième point n'est pas placé sur la ligne, qui nous donne un triangle, qui est le plan et qui n'est pas encore un espace pour moi. Donc en rajoutant encore un point, s'il n'est pas placé sur ce triangle, on donne le premier volume, le tétraède, et le tétraède donne 1, qui est le premier point, le premier volume où on peut décrire un intérieur et un extérieur, et qui est 1, quelque part, le premier 1, en attendant un deuxième tétraède, qui est, etc.
Je viens d'arriver, peut-être que la question a été posée, je suis désolé, alors on ne répond pas, mais comment, par rapport à toute cette recherche et à ce qu'on voit dans le travail, qui est très beau, merci, et j'ai le même, la même appréhension quelquefois avec l'art plastique en général, quelle est la place de l'humour dans le travail ? Il y en a, hein, on rit, mais pour toi, de manière générale,
De l'humour pendant que je travaille ? Oui, eh ben ça dépend. Il y a des fois, je suis plus drôle que d'autres jours. J'ai plus envie de rigoler. Cette version-là, pour l'instant, je la trouve pas très rigolote. Elle est moins drôle que l'ancienne, mais ça peut changer. J'espère, ça va devenir un peu plus drôle, d'ailleurs. J'espère, hein, pour moi-même, déjà. Et puis, voilà. Ouais. On verra.
Un petit peu, c'est un petit peu bateau, mais c'est une observation dans ce travail. Ça, quand tu arrives sur scène, il y a une certaine puissance qui est donnée par le personnage, qui est donnée par ce qu'on te connaît de toi. Et tout ça repose sur une fragilité de finalement tout, jusqu'à le petit avion qui vole, mais peut-être qu'il ne peut pas faire son looping. Enfin, où tout repose sur ce paradoxe. Moi, j'ai bien aimé ça, quelque chose de très qui semble très stable, sur lequel on construit un spectacle, et ça repose sur pas grand-chose. Un petit courant d'air peut tout foutre en l'air, quoi. Et du coup, ben, c'est intéressant. Enfin, nous, on peut ressentir ça de plusieurs manières, ça peut aller assez loin, mais c'est intéressant de jouer sur ça, je trouve. Moi, j'ai trouvé un intérêt là-dedans.
C'est bien, on n'est pas obligé de poser des questions, hein. C'est bien juste de donner son avis comme ça aussi, hein. Alors, bah peut-être pour finir, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps, pour finir, moi, je voudrais quand même revenir à ce que tu es sur le plateau, parce que là, on a parlé en permanence des constructions, mais on voit ça assez souvent, hein, y a la transégrité chez les architectes, comment tenir des choses avec trois éléments en tension, etc. Mais il me semble que le plus important, c'est ce que tu es toi sur scène, et on voit bien là que ce n'est pas le même. Hein, alors on a l'impression, c'est pour être un ingénieur informatique ou un mathématicien qui nous parle là, mais c'est pas du tout la même personne qu'on a vue sur scène. Je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord ? Hein, voilà. Et ça me paraît vraiment important parce qu'il y a deux êtres. La scène, c'est quand même autre chose. C'est une autre réalité. C'est parce que c'est pas une banalité. C'est autre chose. Et donc on a affaire à quelqu'un d'autre sur scène. Et sa présence est extrêmement importante. Sinon les constructions n'ont pas de raison d'être. Sinon on va au musée où il fait des expos. Il y a des archives qui font ça. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus, parce que sinon la chose ne peut pas exister. Tu vois, et j'ai l'impression que tu es dans un certain état. Je pose une question. Est-ce que tu es dans un certain état ?
Quand je travaille ?
Quand tu es sur scène ?
Oui.
Pas quand tu travailles. Oui. Mais ça restitue peut-être quelque chose de ça, mais quand tu es sur scène.
Oui, oui. Certainement, oui.
Non, mais t'as bien la sensation.
J'en ai aucun souvenir.
C'est vrai, mais t'as bien la. Bon, alors, est-ce qu'on est d'accord ? Il y a un public, là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on sent une certaine rage par moment ? Ou une fièvre, alors ?
Il y a un état.
Oui, mais il y a un état. Il n'y a pas de sentimentalité, par exemple. On est d'accord pour dire ça. Hein ? Donc, il y a une sorte. Il y a une fièvre, non ? Non ? Bah, quand même.
D'être habité comme par une capacité à faire dialogue, à avoir un dialogue avec donc la matière, comme une forme d'animisme ou de. Enfin, je veux dire, j'ai pas très envie de me faire casser ma croyance là-dessus parce que j'ai adoré la poésie qu'il y a justement dans ton entrée dans la matière, une espèce de tout qui se dégage. Pour moi, le secret c'était ça, c'était être capable de montrer en quoi tu pouvais rentrer dans cette matière, l'animer, lui donner de la vie. Et voilà, là où effectivement tu parles de topographie, mathématiques, où c'est très, très raisonné, j'ai vu quelque chose de comme quelque chose d'oublié, une connaissance oubliée. Et j'ai pas très envie de me faire casser ma croyance là-dessus, j'ai presque pas envie que tu m'attends.
Mais je crois que, enfin, je parle de mathématiques, topographie, philosophie, etc., tout ça. En fait, tout ça, ce sont des noms que l'on donne à des choses que l'on cerne, que l'on reconnaît, mais toutes ces choses-là, elles existent sans nom aussi. Elles existent. Après, on les attrape, on les décrit, on les dessine, on les isole, on peut leur donner des noms. Mais tout ça existe sans nom, et tous ensemble. Et tout mélangé, et je pense que c'est de ça que tu parles.
Et ce personnage sur scène, là, pour lui, c'est complètement naturel de rentrer là-dedans. Il n'a pas besoin de mettre des mots sur des pratiques. Mm-hmm. C'est complètement naturel, c'est devenu instinctif. C'est. Mm-hmm.
C'est
lui.
Mm-hmm. Mais c'est le cirque ici, quoi.
Un secret, quand même.
Le, le cirque ici, l'État, il est ici, là, au moment où je... Enfin, ça, je trouve que ça se voit dans le titre, quoi. C'est le titre des jeux, parce qu'il y a, finalement, il n'y a pas de jeu de quoi que ce soit. Le cirque ici, voilà, le personnage, il est ici à ce moment-là, quoi. Voilà. Quelque part, enfin, je trouve ça... Voilà.
D'accord. Mais alors, oui, bah justement, vas-y.
Puisque tu as posé la question, je ne sais pas si tu... Si c'est intéressant d'y répondre, mais moi, ce qui m'a vraiment bousculé et impressionné, c'est le travail musical, en tout cas sonore, qui va avec toi. Et plus qu'un jeu ou qu'un personnage, moi, je voyais pas ça, mais c'est le rythme. Comme ta présence qui tient, ça, c'est déjà incroyable, parce qu'on pourrait vite s'ennuyer si tu n'avais pas cette présence. Mais c'est surtout le rythme qui fait tenir ça. Chaque entrée, chaque installation a son rythme qui évolue, comme pour l'ambiance sonore et quelquefois musicale carrément. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ou c'est trop large, trop vaste? Enfin, voilà.
Je dirais que ça pourrait s'améliorer. Le rythme, il va aussi avec le public, comment l'état de la salle, quoi. Et que là, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Je pense que ça peut beaucoup s'améliorer, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus.
Alors oui, qui fait la bande son?
Alors, la bande-son, là, c'est Guy Ajaguin et Yann Noury, qui sont deux électroacousticiens qui ont fait la création musicale et qui la jouent en direct, qui se relaient sur la tournée. C'est un des deux qui sont au mât, accrochés au mât, là.
Bon, juste pour finir...
Oui, voilà, la question. Voilà, c'est électroacoustique, mais c'est vivant, quoi. Ça reste vivant. C'est pas une bande qui est envoyée au début et éteint à la fin.
Mais je voudrais revenir encore sur cet état, parce que ce qui est intéressant, c'est le caractère obsessionnel à l'intérieur de ça, la volonté d'aboutir. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la science et aussi chez les artistes. Enfin, moi, c'est pour ça que je reviens aussi à la personne sur scène. C'est-à-dire que je vais évoquer une petite histoire. Il y a un film qui s'appelle Andriy Rublev, que vous avez peut-être vu, qui est un classique russe, hein, où on voit à un moment donné, voilà, hein, où on voit un Tarkovsky, exactement, où on voit à un moment donné un jeune homme dont le père construisait des cloches. Le père construisait des cloches immenses. C'était un faiseur de cloches, il y en avait peu. C'est très difficile de fondre des cloches et de créer des moules pour des cloches. Mais lui, il s'en foutait. Lui, il se baladait dans la nature, il regardait les filles. Et puis, de temps en temps, il voyait son père bosser, comme ça, en rentrant. Et puis, à un moment donné, ben, son père est mort. Mais la cloche était fêlée. Elle sonnait plus, elle avait plus le timbre dans le village. Donc, il a fallu reconstruire une cloche. Et on a fait appel à lui, parce que c'était le seul, à 500 km à la ronde, qui était censé savoir construire des cloches. Mais lui il n'avait pas travaillé avec... Il n'avait pas travaillé avec son père. Il n'avait pas suivi, il s'en foutait. Il allait se balader, sauf qu'il avait un peu vu. Et il accepte, il dit oui. Il dit oui, je vais construire cette cloche. Je vais le faire, il accepte. Et à partir de là, il rentre dans un état obsessionnel. Il rentre dans une fièvre, parce que ça devient un enjeu colossal pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir faire vibrer, ben pour tout le village aussi. Mais le village lui fait confiance. Le village lui fait confiance, comme nous. On lui fait un peu confiance quand il monte son dôme. Quand il monte des choses comme ça, on lui fait confiance, mais on sent bien que ses limites, on l'accompagne dans cette fièvre, vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, donc, il se retrouve dans cet état qui est un état de création, on va dire. C'est-à-dire qu'avec quelques éléments qu'il a perçus, quand il a vu son père travailler, avec ces quelques éléments, il a des souvenirs, et il va falloir qu'à un moment donné, parce qu'on va fondre des tonnes de bronze, ils font ça dans des champs immenses, c'est pas une petite cloche, hein, c'est pas pour appeler un domestique, hein, c'est un truc qui fait 3 mètres de diamètre, qui fait 4,50 de haut, qu'on fond dans la terre. Et donc c'est une figure allégorique de l'artiste, et moi je retrouve quelque chose de cette matière-là dans cette proposition-là. Je sais pas. Oui, mais c'est ce que je retrouve, c'est cet engagement avec en même temps ce risque et cette peur, quoi. Et en même temps cette façon d'aller, cette rage et cette fièvre, encore une fois. Est-ce que je viens de dire te parle ou pas du tout? Ou est-ce que tu es plus froid? Et en disant ça, je m'excuse, hein, je rajoute une petite chose. En disant ça, je me rappelle que tout à l'heure, parce que je connaissais rien de toi, et puis j'ai eu le petit papier là qui est donné, et je me suis aperçu que tu avais des parents qui étaient plasticiens. Et en disant ça, en parlant d'une filiation comme ça, ça m'est revenu là, un instant.
C'était une question ?
Non, c'est pas une question. Non, c'est pas une question. Est-ce que ça a participé ou pas ? Oui, de se retrouver dans une notion de sculpture, de construction. Oui.
Le fait que mes parents soient plasticiens ?
Oui, par exemple. Ouais.
Oui, certainement que ça. Tous mes frères sont dans un domaine plastique. Moi, je suis le seul qui suis parti dans une direction de spectacle vivant. Et puis finalement, et sans le vouloir, je rejoins un peu le domaine plastique, même si je ne revendique pas un désir de plastique. Dans le sens où tous les objets que je construis ne sont pas faits dans une direction plastique. Mais d'abord utilitaire, qui fait apparaître une plastique. Peut-être que la démarche est différente, bien qu'il y a peut-être des plasticiens qui travaillent comme ça aussi, mais enfin, qu'importe. Après, les liens qu'il peut y avoir avec l'art plastique et notamment la sculpture et le cirque, c'est que la sculpture, comme le cirque tel que je l'entends, c'est quelque chose qui se pense dans l'espace. C'est-à-dire, c'est pas comme la... Disons, je pourrais faire un parallèle entre le cirque et la sculpture, le bas-relief et le théâtre, et la photographie et la peinture, par exemple. Et donc, pour dire que un sculpteur ne pense pas comme un peintre. Le peintre pense rarement à l'arrière de sa toile. Le sculpteur pense toujours à l'ensemble de... À l'objet dans toutes ses dimensions, comme au cirque tel que je l'entends, c'est-à-dire dans l'espace circulaire des points de vue. La pensée circassienne ne se fait pas de la même manière quand elle doit être produite en frontal ou en circulaire. La base de la réflexion n'est absolument pas la même. Et c'est ce qui, à mon avis, définit aussi ce qu'on peut appeler le cirque et autre chose. C'est un autre sujet qui est peut-être un peu tabou par ici.
Non, pas forcément, non, je crois pas.
Non, mais là, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une constatation encore. Une constatation, il y a l'intuitif de l'artiste et après, comment on intellectualise ce geste, parce qu'il faut les deux aussi pour l'analyser. Et dans un artiste, il y a l'intuition qui prend le pas, qui fait l'action, qui actionne, et puis après, il y a tout un tas de réflexions qui sont issues de ce geste intuitif. C'est, moi, ça m'intéresse, je trouve que c'est intéressant. Quoi.
Bon, on arrive presque au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce que vous avez encore quelque chose? Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'à la fin du spectacle, vous reveniez sur scène tous et en étant pas un sourire, pas que vous tourniez. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a... Hein ? Oui, mais pas détendu du tout, en fait. Je me suis posé la question. Et on était 4 ou 5 et on s'est dit, ils ont l'air contents d'être là. Enfin, je sais pas si...
Qu'on n'a pas l'air contents d'être là ? Hein ? Oui, alors l'histoire de sourire après... Oui. C'est vrai que je ne souris pas quand je reviens parce que je ne trouve pas de raison de sourire. Je vous regarde, je regarde comment vous êtes. Finalement, je ne vous ai pas tant que vu que ça. Je ne vous vois pas tellement pendant le spectacle, donc j'en profite. Qui c'est qui est là ? De quoi ils ont l'air ? J'ai l'air content. Tu vois.
Mais en tout cas, c'est chouette. C'est chouette d'avoir cette rencontre. Parce que sincèrement, moi, quand je vois le spectacle, je me dis, merde, ce mec-là, est-ce qu'on peut lui parler, quoi?
Et donc, et c'est pas grave, mais je trouve ça très riche de d'échanger toutes ces choses-là maintenant.
Moi, je rejoins Kenzo sur ce point, oui. Et, c'est la première fois que je voyais ton spectacle hier, la première fois que je rencontrais ton travail. Et du coup, j'ai eu un peu cette même fascination et en même temps, un peu de. J'avais besoin de prendre du recul face à ce personnage parce que je me demandais justement ce qu'il en était du Joan Le Guilherme dans la vie. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la personne que j'ai vue sur scène, pour moi, c'est quelqu'un qui se prenait pour Dieu. En fait, c'est quelqu'un qui donne la vie et qui la reprend, quoi. C'est un truc qui m'a frappé de plein fouet. Du coup, j'avais besoin de voir si c'était Dieu que j'avais en face de moi quand même aujourd'hui.
Déçu voilà.
Non. Mais voilà, je sais pas si... J'imagine ne pas être la première personne à aborder le sujet, ou peut-être que si, enfin bref. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui te passe par la tête à un moment, ou est-ce qu'il y a que
de
la
Dieu
mienne qui...
Hein, de Dieu,
un rapport à la création et à la destruction de la création, en tout cas.
Ouais, enfin, j'ai jamais pensé au rôle de Dieu, mais oui, il y a quelque chose de ce qu'on fait tous les jours, quoi, construire, détruire. Oui, c'est quelque chose qu'on pratique tous depuis toujours.
Mais est-ce que on va, oui. On va peut-être finir, mais c'est un peu ce qu'on disait. À la fois, on a une sorte de démiurge sur scène, et puis on a presque un artisan ici, là. Il parle comme un artisan. Donc, mais c'est peut-être pour conclure, à moins qu'il y ait quelqu'un qui voudrait encore poser une question, mais je trouve que pour conclure, ce mec-là, on peut lui parler. Je trouve que c'est bien. Ok, bien. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde, et merci beaucoup à Johan.
Oui, merci à vous.
Merci beaucoup.